Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 34, Daf Lamed Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Beshlikta ou Meista, qu'on parle de blé qui a été bouilli et qui est devenu dégoûtant. Achanami, donc ici aussi il faut expliquer, Beshlikta ou Meista, du blé qui a été bouilli et qui est devenu dégoûtant. Et c'est pour cela qu'on a le droit de l'utiliser en tant que combustible, car on ne craint pas qu'il en vienne à le consommer. Mais si ce blé n'a pas devenu dégoûtant, il sera interdit de l'utiliser en tant que combustible, de peur qu'on en vienne à le consommer. Et nous avons fini ici le chiour de Daf, Lamed Gimel. Nous commençons Bezrat Hashem, le chiour de Daf, Lamed Dalet. Nous sommes Daf, Lamed Dalet, Amud Alef, à la seconde ligne. Nous avons rapporté à la fin du chiour précédent un enseignement de Rav Ashi qui nous dit que nous parlons de blé qui ont été bouillis et qui sont devenus dégoûtants. Alors la Gemara demande Veicha Itmar de Rav Ashi. Où c'est que cet enseignement de Rav Ashi a-t-il été dit? Alors la Gemara répond Aha de Amar Rabbi Avin Baravacha. Amar Ravitzrak. Parce que sur ce qu'a dit Rabbi Avin Baravacha au nom de Ravitzrak. Abba Shaul. Gabal shel bet Rebiaya. Abba Shaul, c'est celui qui pétrissait la pâte dans la maison de Rebi. Vayu mechamin lochamin, et on lui réchauffait le four, bechitin shel teruma, avec du blé de teruma, temea, qui était devenu impur. La louche bahen isa betara, pour y faire cuire, et pour y pétrir et faire cuire dedans de la pâte, qui a été fait en état de pureté. C'est-à-dire que Rebi, lui, tout ce qu'il consommait, il le consommait en état de pureté. Et malgré tout, on faisait réchauffer son four avec du blé de Trouma impur qui a été racheté au Kohanim, et cela sans craindre que le pain ne vienne à en toucher ce blé, et que ce pain lui-même devienne impur. L'Agma demande, « Amai, pourquoi faisait-il une chose pareille ?» Pourquoi ne craignons pas qu'il y a quelqu'un qui va venir à faillir et que ce pain touche le blé sans faire exprès et que ce pain lui-même va devenir impur? Et donc, pourquoi permettons d'utiliser du combustible impur? Ravashi a dit, nous parlons de Beshlikta Omeista, que ce blé a été bouilli et est devenu dégoûtant et inapte à la consommation, et c'est pour cela que nous avons le droit de l'utiliser en tant que combustible. Et donc, en fait, puisqu'il a été bouilli et devenu inapte à la consommation, il ne s'appelle plus de la nourriture, et donc, il perd son état d'impureté. Maintenant, la Gemara rapporte un autre cas. Abaye Baravin, Verav Hanania Baravin, ces deux Emoraïm, Tanu Trumot Beraba, ont étudié les lois de Trumot dans la maison d'études de Rabba. Pagabeo Rava Barmatna. Rava Barmatna les a rencontrés. À Marleau, il leur a dit, Maya Mitru Betrumot, qu'avez-vous étudié à propos de Trumot, des Bémar, dans la maison d'études du maître? Adam Roulet, ils lui ont répondu, Umay Kashilar, quelle question as-tu? Tu nous demandes qu'est-ce que nous avons étudié? Quelle question as-tu à toi? Adam Marleau, il leur a dit, Nan, nous avons enseigné dans une Mishnah, Shtile Trumot, Shenitmeu, des plants de Teruma qui sont devenus impurs. Et Rachid nous a ramené l'exemple d'un chou que l'on aurait arraché avec sa racine, et qu'on ait décidé que ce chou soit teruma, et on l'a arraché au milieu de sa croissance. Véchatlan, et après on l'a replanté ailleurs, tehorim miletame. Alors, ces plants, par exemple ce chou, il est pur par rapport à la possibilité de rendre impur. C'est-à-dire qu'en fait, ces plants n'ont pas la possibilité de faire passer l'impureté, bien que eux était impur. Vasurin milechol, mais il sera encore interdit de les consommer. Et là-dessus, il leur a posé la question. Vechim achar de taorim miletame, puisque nous disons qu'ils ne peuvent pas faire passer l'impureté, donc ça veut dire qu'en fait, ils ne sont plus impurs. Car étant donné qu'on les a replantés, qu'on les a remis en terre, il y a une règle qui nous dit que quelque chose qui est mechoubar la karka, qui est rattaché au sol, ne peut pas devenir impur. Et donc, nous ne les considérons pas comme étant impurs. Alors, puisqu'ils ne sont pas impurs, Amaya Surimilechol, pourquoi est-il interdit de les consommer? ça devient de la terouma qui est pure. Or, de la terouma pure est permise à la consommation au Kohanim. Azamroul, et ils lui ont répondu, Achiyama Rabba. C'est ainsi que Rabba expliquait. Maya Sourine, que signifie ce qui a été dit dans la Mishnah, qu'il est interdit de les consommer? Asurim Lazarim, il est interdit à un non-Kohen de les consommer. Mais c'est vrai qu'un Kohen aura le droit de les consommer. Alors là, tu leur as posé la question, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'en fait, par exemple, ce plant de chou que l'on a replanté, alors même ce qui pousse de ce chou est appelé terouma, car nous voyons qu'il n'est permis à la consommation qu'au Kohanim. Et donc, en fait, nous apprenons de la guidoulé terouma, ce qui pousse d'une plante de terouma, qui est elle-même terouma, terouma, tout ce qui pousse de cette plante est aussi considéré comme étant terouma. Et donc, par exemple, tout ce que ce chou a grossi, étant donné qu'à l'origine il était terouma, tout ce qu'il a grossi, c'est aussi considéré comme étant terouma. Alors, Tanina, ça on l'a déjà enseigné dans une Mishnah, guidoulé terouma, terouma, tout ce qui pousse d'une plante terouma est considéré comme étant terouma. Vechite ma guidoulé guidoulim. Et peut-être tu vas me dire qu'ici on parle de guidoulé guidoulim, et ici la Gemara fait la différence dans la façon de pousser. Par exemple, prenons l'exemple de ce chou. Si on le replante en terre, alors il peut y avoir deux possibilités. Soit les feuilles du chou, comme elles étaient jusqu'à maintenant, elles ont maintenant commencé à grandir. Et donc en fait, c'est ces mêmes feuilles, mais qui ont grandi. Ça, c'est ce qu'on appelle guidoulé terouma, ce qui pousse de la terouma. Mais il y a ce qui s'appelle guidoulé guidoulim, les pousses de la pousse de terouma. C'est-à-dire s'il y a des nouvelles feuilles de chou qui viennent se rajouter sur les anciennes. Ça s'appelle guidoulé guidoulim. Alors peut-être que cela, on peut penser que ça, ce n'est pas terouma. Et donc, en fait, c'est peut-être pour ça que la Mishnah vient nous apprendre. Que guidoulé, guidouline sont considérés quand même comme étant terouma. C'est-à-dire ce que nous avons déjà appris, c'est un rapport sur guidoulé, terouma, les pousses de terouma. Mais guidoulé, guidouline, les pousses des pousses de terouma, c'est-à-dire les feuilles qui viennent se rajouter, ça, nous ne l'avons pas appris, et c'est peut-être pour ça que la Mishnah vient nous apprendre. Alors là-dessus, il aura refuté aussi. Ou Maïka Mashman, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça aussi, nous l'avons déjà appris. Bidvar Shenzarokale, car nous parlons bien sûr seulement à propos de quelque chose dont la graine ne disparaît pas. Par exemple, ce chou que l'on a replanté avec ses racines, alors les racines et ce chou en lui-même ne disparaissent pas pour donner place à un nouveau chou. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du blé. Par exemple, du blé, lorsqu'on plante un grain de blé dans la terre, le grain de blé disparaît complètement, pourrit complètement, avant de donner naissance à un nouvel épi de blé. Et donc, bien sûr, ici, nous parlons de guidoulé, guidouline, de pousses de terouma, et bien sûr, à propos de quelque chose dont la graine ne disparaît pas. Alors ça, Hanami Daniel, ça aussi, nous l'avons appris à Tevel, et nous l'avons appris à propos d'autre chose, mais nous pouvons l'apprendre à propos pour terouma. À Tevel, de la récolte dont l'on n'a pas pris les dîmes, guidoulav mutarin. Si on l'a replanté avant d'en prélever les dîmes, ce qui pousse, on a le droit de consommer fortuitement. C'est-à-dire, il y a une règle qui nous dit que du Tevel, à partir du moment où l'on a entassé la récolte, il est interdit d'en consommer fortuitement. Et là, la Gemara nous dit que si après avoir entassé la récolte, bien que normalement, on n'a plus le droit d'en consommer fortuitement, si on le replante en terre, alors ce qui pousse, on aura le droit d'en consommer fortuitement. Et nous parlons bidvar chez Zarokale. Nous parlons de quelque chose dont les graines disparaissent. Par exemple, du blé. Aval bidvar chez Zarokale. Mais si c'est quelque chose dont les graines ne disparaissent pas, afilu guidoulé guidouline asourine. Même les pousses des pousses sont interdites à la consommation. Et donc, de même qu'à propos du tevel, de la récolte dont on n'a pas prélevé les dîmes, guidoulé guidouline, les pousses des pousses sont interdites à la consommation. De même à propos de la terouma, les pousses des pousses sont considérés comme étant terouma. Alors, et donc, à nouveau, se revient la question, qu'est-ce que cette Mishnah vient nous apprendre? Ishteku, alors ils se sont tus et ils ne savaient pas quoi répondre. Azamarle, Amroule, alors ils lui ont dit, c'est-à-dire Abaye Barabin et Rabchanaya Barabin lui ont dit à Rabba qui a posé cette question, Midesh Mialach Beha, as-tu entendu toi une explication sur cette Mishnah? Amarle, alors il leur a dit, Achiyama Rav Shechet, c'est ainsi que Rav Shechet a dit, Maya Surin, que signifie que ces plans sont interdits, et bien que apparemment nous les considérons comme étant purs, malgré tout, nous disons qu'ils sont interdits à la consommation, asurim la koanim, ils sont interdits à la consommation au koanim, pourquoi? Oil ve'il sileu lehu be'eser adat. Car ils ont reçu un psoul, une disqualification à cause de l'inattention. C'est-à-dire, il y a une règle qui nous dit à propos de terouma, que lorsqu'on a de la terouma dans son domaine ou chez soi qui nous appartient, on doit toujours faire attention à cette terouma qu'elle ne devienne pas impure. Et si on a eu un moment d'inattention et qu'on n'a pas fait attention à ce qui se passait avec cette terouma, immédiatement, cette terouma devient pasoul. Elle devient disqualifiée et on n'a plus le droit, elle est inapte à la consommation. Et donc cette terouma, puisqu'à un certain moment, elle est devenue impure, avant que l'on ne la replante en terre. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on n'a plus fait attention à elle. Et donc en fait, il y a ici maintenant un psoul, une disqualification à cause de l'inattention. Et donc, étant donné qu'il y a une disqualification à cause de l'inattention, maintenant, bien que lorsqu'elle a été replantée, elle perd son état d'impureté, malgré tout, elle est impropre à la consommation à cause de ce psoul, à cause de cette disqualification de l'inattention. Alors la Gemara demande... Je peux comprendre, d'après celui qui explique, que l'inattention, c'est psoulagouf. C'est une disqualification dans l'objet lui-même, c'est-à-dire dans la nourriture elle-même, dans cette pousse elle-même de terouma. Alors, c'est une disqualification et alors elle devient impropre à la consommation. Shapir, c'est compréhensible. Elle a les mains d'amar et serhadat psoultoumave, mais d'après celui qui dit que l'inattention, c'est un psoul, c'est une disqualification, car l'on craint qu'elle est devenue impure. Maïkale Memar, que pouvons-nous dire? Car ici, la seule crainte qu'il y a, c'est que cette terouma est devenue impure. Or, même si elle est devenue impure, du moment que l'on l'a replantée en terre, elle perd son état d'impureté et elle redevient pure. Et donc, pourquoi est-elle impropre à la consommation? Deitmar, car il a été dit. Et nous ramenons maintenant cette discussion. Et c'est Achadat, l'inattention. Rabbi Yochanan Omer, Pasoul Toumave, d'après Rabbi Yochanan, c'est une disqualification car on craint que cet objet est devenu impur. Et il faut savoir que cette disqualification se rapporte et sur la terouma, et sur les kodshim, et sur les choses saintes, par exemple les sacrifices. Ve Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, Psoul Agoufave, c'est un psoul dans la nourriture en elle-même. C'est une note de même qu'il y a certaines choses qu'il disqualifie la terouma à la consommation, ça aussi c'est une autre sorte de chose qui disqualifie la terouma à la consommation. Et ce n'est pas parce que l'on craint qu'elle est devenue impure. Et l'agma continue à expliquer. Rabbi Yochanan amar psoul touma ave. Rabbi Yochanan nous dit que c'est un psoul car l'on craint que cette terouma est devenue impure. Et donc, Shim yavo Eliyahu veitarena, si Eliyahu anavi, Eliyahu le prophète, vient et nous dit que cette terouma n'a jamais touché une source d'impureté, et donc elle est restée dans son état de pureté, Shomilo, on l'écoute, et on pourra la consommer. Rav Shimon Melakish Shomer, Rav Shimon Melakish nous dit, Psoul Agoufave, c'est une disqualification en soi-même. Et donc, Shim Yavo Eliyahu Veitarena, et donc même si Eliyahu Anavi, Eliyahu le prophète, vient et nous dira que cette terouma n'a jamais touché de source d'impureté, En Shomimlo, on ne l'écoutera pas, et elle restera impropre à la consommation. Car étant donné qu'on n'a plus fait attention à cette terouma, ça la rend impropre à la consommation. Alors, et Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Yochanan a posé la question à Rabbi Shimon ben Lakish, il lui a rapporté une braïta. Rabbi Shmael ben Osh et Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Shmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, nous dit, Lul Katan aya ben Kevesh la Mizbeach. Il y avait un petit trou dans le coin de la pente qui montait sur l'autel, et l'autel lui-même, Bema Aravo, du côté ouest, chez le Keves, de cette pente-là. Chez Sham Ayuzokim, et là-bas on y jetait, Pesoule Khatat Aof, les Khatat Aof, les expiatoires volailles que l'on amenait et qui étaient devenus Pasoul, qui étaient disqualifiés, on les jetait là-bas, Veteubar Tsuratan, la traduction littérale Veteubar Tsuratan, c'est-à-dire de les laisser perdre leur forme, c'est-à-dire de les laisser pourrir. Et en fait, Rashi ici nous explique qu'on ne laissait pas pourrir la viande du sacrifice, mais tout simplement, on la faisait passer la nuit. Et il y a une règle qui nous dit que l'ina, faire passer la nuit à un sacrifice, ça le rend pas saoul, ça le disqualifie, on n'a plus le droit de la porter sur l'autel. Et donc, on le laissait là-bas on le faisait passer la nuit là-bas, veyotin les bêtes à serefa, et après cela, on les faisait sortir à l'endroit où on les brûlait. Et donc, maintenant, Rashi nous explique. Nous avons parlé ici d'un khatat aof, d'un expiatoire volaille, qui est devenu pasoul, qui a été disqualifié. Mais la Mishnah n'a pas précisé la façon par laquelle il a été disqualifié. Or, il y a une règle, que si, par exemple, cet oiseau est devenu lui-même impur, ou que l'on ait eu une pensée qui disqualifie ce sacrifice au moment où on l'aurait abattu, ou au moment où on jette le sang, alors on n'a pas besoin de le jeter dans cet endroit, et on l'envoie directement à se faire brûler à l'endroit spécial où l'on brûlait les sacrifices. Donc en fait, le seul psoul qu'il peut y avoir, la seule disqualification qu'il peut y avoir, c'est une disqualification qui n'est pas entière, pour laquelle on a besoin d'une deuxième disqualification, c'est-à-dire de faire passer la nuit à ce sacrifice dans ce petit trou à côté de l'autel. Or, la seule pareille disqualification que nous avons trouvée, c'est Esser Adat, l'inattention. La Gemara explique immédiatement. Iamad Bishlama Psul Tumav, et si tu me dis que l'inattention, ça disqualifie la Terouma et donc de même les sacrifices, car l'on craint qu'ils sont devenus impurs, Azmishuma Ribaï Bosura. C'est pour cela que l'on doit faire passer la nuit à ce sacrifice dans ce petit trou-là. Pourquoi ? Shema Yavo Eliaou Vetarena, car de peur que Eliaou, le prophète, vienne et nous dise qu'en fait ce sacrifice n'a jamais touché aucune source d'impureté. Et donc en fait, tout le psoul, toute la disqualification de Esser Hadat, de l'inattention, c'est parce que l'on ne sait pas ce qui s'est passé au moment où on n'a pas fait attention à ce sacrifice. Et donc peut-être qu'il est devenu impur, mais peut-être que pas. Et donc c'est pour cela qu'on doit le laisser dans ce trou. Et là, Yama Psoul Agouf, mais si tu me dis que l'inattention en elle-même, c'est une disqualification, même si on ne craint pas qu'il est devenu impur, la Malei Bosura, pourquoi avons-nous besoin de mettre ce sacrifice dans ce petit trou là-bas? Maintenant, pourtant, nous avons enseigné dans une Mishnah, Zakelal, telle est la règle.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf, la médaille est à Moudbet. Kol chepesulo begufo, yisaref miyad. Tout ce que dont le psoul, la disqualification, est dans le sacrifice en lui-même, on le brûlera immédiatement. Or, si nous considérons l'inattention comme étant un psoul, une disqualification dans le sacrifice lui-même, on pourra le brûler immédiatement et on n'aura pas besoin de lui faire passer la nuit. Et la continuation de la Braïta nous dit, Baidam ou Bebalim, si la disqualification a eu lieu dans le sang, par exemple que le sang est devenu impur, ou Bebalim, ou alors qu'il y a eu un problème avec les propriétaires de sacrifice, Teubar Tseuratan, alors le sacrifice, on devra lui faire passer la nuit, et donc automatiquement il deviendra inapte à porter sur l'autel, Veotin les bêtes à se et à ce moment-là, on l'enverra à l'endroit où on brûle les sacrifices. Mais de cette Braïta, nous voyons donc que si c'est un psoul à gouffre, si c'est quelque chose qui est un psoul à gouffre, c'est-à-dire qui a une disqualification en lui-même, on le brûle immédiatement. Et d'un autre côté, dans la première Braïta, nous avons vu que l'inattention n'entraîne pas que l'on brûle immédiatement le sacrifice. Donc de là, nous apprenons que l'inattention n'est pas considérée comme étant un psoul à gouffre, une disqualification dans le sacrifice en lui-même, mais juste une crainte que ce sacrifice ait été touché par une source d'impureté. Azamarle, il lui a répondu, Haitana, Tana de Berababa Ravouaou. Ça, ce Tana, c'est l'enseignant de la maison d'études de Rababa Ravoua. De Amar qui a dit, Afilou Pigoul, même un sacrifice qui, lorsque, au moment où on l'a battu, on a eu une mauvaise pensée, c'est-à-dire une pensée qui le disqualifie, et cette pensée, d'après tout le monde, ce sacrifice est inapte à être apporté sur l'autel, malgré tout, et donc c'est sûr qu'on doit le brûler, malgré tout, Taoun Ibur Sora, on devra lui faire passer la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, Satana pense que n'importe quel psoul, n'importe quelle disqualification, on ne peut le brûler immédiatement, mais on devra lui faire passer la nuit. Et donc c'est pour cela qu'en fait, c'est très possible que l'inattention est une disqualification dans le sacrifice en lui-même, et pas une crainte que ce sacrifice ait été touché par une source d'impureté, et malgré tout, on devra lui faire passer la nuit, comme toutes les autres disqualifications. Alors la Gemara continue à poser une question. Itivé, la Gemara pose une question. Nitma, s'il est devenu impur, Oshé Nifsal Abassa, ou que la viande a été disqualifiée, Oshé Asachus Lakelaim, ou alors que la viande est sortie à l'extérieur des démarcations, c'est-à-dire à l'extérieur de l'endroit où on a le droit de le manger. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit que Yizrok, le sang de ce sacrifice, a le droit d'être jeté sur l'autel. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua nous dit, lo Yizrok, le sang de sacrifice n'a pas le droit d'être jeté sur l'autel. Umode Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabbi Eliezer, Shem Zarak, que si le sang de sacrifice a été jeté sur l'autel, Urta, ce sacrifice a été accepté. Alors maintenant la Gemara demande, Manifsal, qu'est-ce que signifie que la viande a été disqualifiée? Nous avons vu trois cas. Ou que la viande est devenue impure, ou qu'elle est sortie à l'extérieur d'une démarcation, ou qu'elle a été disqualifiée. Alors qu'est-ce que signifie ici maintenant qu'elle a été disqualifiée? Lav Bessar Hadaat, n'est-ce pas qu'elle a été disqualifiée à cause d'un problème d'inattention? Or, Iyamad Bishlam Absoulétoumav, et donc si tu me dis que le problème d'inattention, c'est un problème, car on craint que cette viande est devenue impure, Anenu Demashkachad Lenemartetit, c'est pour cela que si le sang a été jeté sur l'autel, malgré tout, le sacrifice a été accepté, car il y a une règle qui nous dit que le tzitz, c'est-à-dire que la bande que le Kohen Gadol portait sur son front, pardonne toutes les fautes d'impureté des sacrifices. Et donc c'est pour cela que même si cette viande, étant donné qu'on a un doute, est-ce qu'elle est devenue impure ou pas, le tzitz qui était sur le front du Kohen fait que lorsqu'on a jeté le sang, le sacrifice était accepté, car c'est un problème d'impureté. Et là, Yamat Sulagoufave, mais si tu me dis que l'inattention, c'est une disqualification en elle-même, et donc, ça ne fait c'est aucun rapport avec les problèmes de pureté ou d'impureté, Hamayurza, pourquoi ici le sacrifice a été accepté, étant donné que la viande était disqualifiée, on n'a plus le droit de jeter le sang sur l'autel, et pourquoi le sang qui a été jeté sur l'autel a fait que le sacrifice a été accepté? Ragma répond, Mainifsal, ici, que signifie que la viande a été disqualifiée? C'est pas disqualifié à cause de l'inattention, mais nifsal betvulium. C'est-à-dire que cette viande a été touchée par un tvulium, une personne qui était impure et qui s'est immergée dans un bain rituel le jour même et qui garde encore quelques traces d'impureté. C'est-à-dire que si une telle personne touche quelque chose de saint, elle le rend impur au point que cette chose est impur, mais ne peut faire passer l'impureté. Et donc, en fait, ça ne s'appelle pas tamé impur complètement, car tamé, c'est quelque chose qui est impur et peut faire passer l'impureté, mais cela s'appelle pasoul, quelque chose qui est impur sans pouvoir faire passer l'impureté. Et donc, en fait, lorsqu'un tvoulium, une personne qui s'est purifiée le jour même, touche de la viande sainte, de la viande d'un sacrifice, elle la rend pasoul, impur, sans pouvoir faire passer l'impureté. Et donc, en fait, dans la Mishnah, nous parlons de viande qui est devenue impure et de viande qui est devenue impure sans pouvoir faire passer l'impureté. Alors, la Gemara demande. Et donc, dans ces deux cas-là, si le sang a été jeté sur l'autel, le sacrifice a été accepté, car en fait, ce sont des problèmes d'impureté et grâce au tzitz, à la bande que le Kohen Gadol portait sur son front, le sacrifice a été accepté. Alors la Gemara demande, Yahri, c'est ainsi, Hainutame, c'est exactement le premier cas. Le premier cas, nous parlons de viande qui est devenue impure. Ici aussi, nous parlons de viande qui est devenue impure. Alors la Gemara répond, très gavnetame. Nous avons aussi ici cité deux cas d'impureté. Le premier cas d'une impureté qui peut faire passer l'impureté, et le deuxième cas d'une impureté qui ne peut pas faire passer l'impureté. Et donc, en fait, de cette Mishnah, nous n'avons pas de preuves sur notre discussion. Mais, en fait, donc, nous restons donc avec la discussion qui nous dit que l'inattention, il y a une discussion. Est-ce que c'est un psoul touma, c'est une disqualification car on craint que cette terouma est devenue impure, ou est-ce que c'est psoul agouf, une disqualification en elle-même? Et donc, à nouveau, nous revenons sur la première question que nous avons posée. Si nous expliquons que la disqualification, l'inattention est une disqualification à cause de l'impureté, pourquoi est-il dit dans la Braïta, que lorsque l'on replante des plants de terouma, il est interdit au Kohanim de les consommer, car il y a un psoul d'inattention, il y a une disqualification d'inattention. Étant donné qu'ils ont été replantés, ils ont perdu toute trace d'impureté, et donc, normalement, il devrait être permis de les consommer. Et la Gemara continue et nous dit, « Qui s'allie Gravine, lorsque Ravine est monté en Eretz Israël, Amra l'Eshma te kame de Rabbi Yirmiya. Il a rapporté cet enseignement devant Rabbi Yirmiya et cette question. Ve'amar, et alors Rabbi Yirmiya a dit, Bablai tipshae, les Babyloniens sont des idiots. Mishum de yadve be'ara de chashucha. Amritun Shmaatata Demarchechou, puisque vous habitez dans un pays qui est mal éclairé, Rashi explique que Babel était un pays dans une vallée, entre deux montagnes, et donc elle était mal éclairée. Alors, puisque vous habitez dans un pays qui est mal éclairé, vous devez rapporter des enseignements qui ne sont pas clairs. Ici, il n'y a pas lieu à une question. Pourquoi? Loshmia lechou ad Reb Shimon ben Akish. N'avez-vous pas entendu cet enseignement de Reb Shimon ben Akish, mishmei de Reb Hoshaya? Au nom de Reb Hoshaya, me'achag shenitmeu, l'eau que l'on puisait lors de la fête de Sukkot pour utiliser en tant que libation sur l'autel. Si ces eaux sont devenues impures et donc sont inaptes à être utilisées en tant que libation, on peut les purifier. Comment cela? En procédant à la hachaka. La hachaka nous dit que si on a de l'eau qui est devenue impure, on peut la mettre en contact avec une source d'eau ou un mikvé, un bain rituel, et en cela, on rend l'eau qui était devenue impure, on la rend pure. Alors l'agma nous dit, de l'eau qui était prévue pour l'libation, qui est devenue impure, ishikan, si il a procédé à la hachaka, c'est-à-dire il les a mis en contact avec un bain rituel pour les purifier, ve'acharkar igdishan, et après cela, il les a sanctifiés pour l'autel.
C'est-à-dire
qu'au moment où il a puisé cette eau, il n'a pas précisé que c'était pour les utiliser en tant que libation, puis elles sont devenues impures, et après cela, il les a purifiées en procédant à la hachaka, et après cela, il les a sanctifiées pour l'autel. Théorie, elles sont pures, et on aura le droit de les utiliser pour l'autel. Mais, igdishan ve'achakar ishikan, si il les a sanctifiées, et seulement après cela, il a procédé à la hachaka, il les a mis en contact avec un bain rituel pour les purifier, temeim, elles restent dans leur état d'impureté, et on n'aura pas le droit de les utiliser pour l'autel. Et la Gemara demande immédiatement là-dessus, mirdez rianinu, puisque le fait de procéder à la hachaka avec de l'eau, c'est-à-dire de prendre de l'eau impure et de la mettre en contact avec un bain rituel, ça revient, ce procédé, ça revient à la zria, ça revient à planté. C'est-à-dire que nous avons vu plus haut que quelque chose qui est planté en terre, quelque chose qui est raccroché à la terre, ne peut recevoir l'impureté. Donc en fait, lorsqu'on met en contact de l'eau avec un bain rituel, ça revient à planter, par exemple, des plants de terouma. Ça revient en même, et dans les deux cas, l'impureté s'en va. Alors puisque le fait de ce procédé de hachaka, c'est comme planter. Mali shikan ve'achakar igdishan, quelle différence y a-t-il s'il a d'abord procédé à la hachaka et après cela il a sanctifié l'eau? Malik dishan, perkari shikan. Quelle différence y a-t-il s'il a d'abord sanctifié l'eau et après cela il a procédé à la hachaka? Dans les deux cas, l'impureté s'en va. Et puisque l'impureté s'en va, cette eau devrait être apte à être utilisée sur l'autel. Et pourquoi avons-nous dit que s'il a d'abord sanctifié et qu'après cela il a procédé à la hachaka, l'eau ne peut être utilisée sur l'autel? Alma, donc de là nous voyons, il faut dire qu'à propos des choses saintes, par exemple, l'eau qu'on veut utiliser en tant que libation sur l'autel, la zria, le fait de planter et de remettre en terre, ne permet pas de faire partir complètement l'impureté. Et donc c'est pour cela que puisqu'il a sanctifié cette eau avant de procéder à la hachaka, ça ne permet toujours pas de la purifier au point d'être utilisée comme libation sur l'autel. Et donc, Achanami, ici aussi, à propos des plants de terouma, étant donné que les plants de terouma, c'est quelque chose de saint, en zeria la terouma, on ne peut procéder à une plantation pour la terouma. C'est-à-dire que même si on remet en terre ces plants de terouma, étant donné que la terouma, c'est quelque chose de saint, les sages ont décrété que l'on ne considère pas cette terouma comme étant pure, et donc elle est encore interdite à la consommation. Et donc, même si nous expliquons que le psoul, la disqualification d'inattention, c'est par crainte que cette terouma est devenue impure. Malgré tout, mais étant donné que la terouma est quelque chose de saint, nous ne disons pas que le fait de la remettre en terre l'a purifiée, et donc ça reste avec cet état d'impureté, et donc les kohanim n'ont toujours pas le droit de la manger. Et donc c'est comme cela que nous expliquons la braïta plus haut. Yativ Rav Dimi, vekamar la le hashmata. Rav Dimi était assis et a rapporté cet enseignement. Amarle Abaye, alors Abaye lui a posé une question sur cet enseignement, et nous parlons ici de l'enseignement de Reb Shimon ben Lakish à propos de l'eau des libations durant la fête de Sukkot. Ikdishan biklik ha'amar aval bepe lo avun rabbanan ma'ala. Est-ce que l'enseignement qui a été rapporté au nom de Resh Lakish, c'est seulement si il a sanctifié cette eau dans un ustensile du temple, car il y a une règle qui nous dit que toute chose qui rentre dans un des ustensiles du temple devient saint. Et ça, c'est une façon de sanctifier quelque chose. La deuxième façon de sanctifier quelque chose, c'est tout simplement en disant « cette chose sera sainte », c'est-à-dire de la sanctifier oralement. Alors Abaye pose la question, est-ce que nous disons que si l'eau a été sanctifiée, on ne pourra plus la purifier, c'est seulement si elle a été sanctifiée par l'intermédiaire d'un ustensile, qui est une sainteté d'un plus haut degré, mais s'il a sanctifié oralement, les sages n'ont pas élevé le degré de sainteté tellement haut, Odilma, ou alors, Bepenami avudra banan mala, que même lorsqu'on a sanctifié oralement, les sages ont décrété ce niveau de sainteté que l'on ne peut les purifier. Amar, et alors il lui a répondu, Zulo shamati. Cette question-là spécialement, je n'ai pas entendu dessus de réponse. Kayotseba shamati. Mais j'ai entendu quelque chose qui ressemble à cette question, et à partir de ce que j'ai entendu, je pourrais peut-être répondre à ta question. Rabbi Abba a dit au nom de Rabbi Yochanan, Anavim shenitmeu, des raisins qui sont devenus impurs, Dachan verkar igdishan, s'il les a pressés, et donc le jus de ces raisins, le vin qui sort de ces raisins est pur, et après cela il les a sanctifiés, Teorim, c'est pur. Par contre, c'est igdishan verkar darkan, par contre, s'il les a d'abord sanctifiés, c'est d'abord, il a d'abord sanctifié les raisins, et après cela il les a pressés, Tmeim, le jus qui sort de ces raisins, nous disons qu'il est impur. C'est-à-dire que c'est vrai que normalement, le jus qui sort de ces raisins est pur, mais étant donné qu'il a déjà sanctifié ces raisins, alors les sages ont décrété qu'il y a un certain niveau de sainteté à garder, et donc, même le jus qui en sortira ne sera pas en état de pureté, mais restera en état d'impureté. Et de là, nous voulons dire, « Ve'a anavim, dekdushat peninu » et les raisins, lorsqu'on les sanctifie, c'est seulement oralement. Et malgré tout, à Vodra Banane, nous voyons que les sages ont élevé ces raisins à un certain niveau de sainteté, que s'il les a sanctifiés avant de les presser, même le jus qui normalement sort de ces raisins est pur, malgré tout, on le considérera comme impur. Donc de même, à propos de l'eau des libations, pas seulement si elle a été sanctifiée par l'intermédiaire d'un ustensile, même si elle a été sanctifiée oralement, les sages ont décrété un certain niveau de sainteté, et on ne pourra pas les purifier. Azama Rabbi Yosef a dit, Anavim Kahamart. Non, ce n'est pas une preuve. Tu veux amener une preuve des raisins. Rabba Anavim Shel Trumaskinan. Ici, nous parlons de raisins qui proviennent de Teruma, de Gdushat Pedidou, Gdushat Klidamia, et dont la sanctification orale ressemble à la sanctification par l'intermédiaire d'un ustensile. C'est-à-dire que dans la Trouma, la seule façon de sanctifier la Trouma, c'est seulement oralement. Il n'y a pas de possibilité de la sanctifier par l'intermédiaire d'un ustensile. Donc la sanctification orale de la Trouma ressemble à la sanctification par l'intermédiaire d'un ustensile des choses saintes du temple. Et donc, c'est peut-être pour cela que le jus de raisin qui sort de ces raisins qui ont été sanctifiés ne pourra pas être pur. Mais peut-être que quelque chose qui a la possibilité d'être sanctifié par l'intermédiaire d'un ustensile et qui n'a été sanctifié que oralement, par exemple l'eau des libations, alors peut-être que dans un cas pareil, les sages n'ont pas décrit un certain niveau de sainteté. Avant l'année des baïk kli, mais peut-être que ceux qui ont besoin d'être sanctifiés par l'intermédiaire d'un ustensile, bepé lo avudra banan, si on l'a sanctifié oralement, les sages n'ont pas décrété un certain niveau de sainteté. Maintenant, la Gemara rapporte cet enseignement de Rabbi Abba au nom de Rabbi Yochanan. Revient sur cet enseignement. Nous avons vu que s'il avait des raisins impurs et qu'il les a pressés, le vin qui sort de ces raisins devient pur. Alors, la Gemara demande, Dachan, s'il les a pressés, va faire tout va, même s'il a pressé une grosse quantité de raisins d'un coup, ces raisins sont purs. Ou mi amar Rabbi Yochanan ari, mais est-ce que Rabbi Yochanan a dit une chose pareille? Va amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit, anavim shenit meu, des raisins qui sont devenus impurs, Dohan pachod pachod mi kabetza, on les presse par quantité de moins de kabetza, et le vin qui en sortira est pur. Car lorsque le vin sort du raisin, il n'y a pas d'une quantité de un kabetza dans les raisins pour faire passer l'impureté. Or, il y a une règle qui nous dit que de la nourriture d'une quantité moins de 1 kbeta ne peut faire passer l'impureté. Donc c'est pour ça que le vin qui sort de ces raisins, c'est vrai qu'il touche les raisins qui sont eux-mêmes impurs, mais les raisins ne peuvent faire passer l'impureté. Et donc nous voyons ici que on peut les presser qu'en quantité de moins de 1 kbeta. Alors pourquoi avons-nous ramené plus loin un enseignement de Rabbi Yochanan qui nous dit apparemment que l'on peut presser une grosse quantité de raisins. Si on presse une grosse quantité de raisins, les raisins qui sont impurs vont faire passer l'impureté sur le vin qui va sortir de ces raisins. Alors la Gemara répond, Ibaïtema, si tu veux, tu peux me dire une première réponse. Achanami pachod pachod mikabetsa. Ici aussi, nous parlons qui presse ces raisins en quantité de moins de 1 kabetsa. Mais Ibaïtema, si tu veux, tu peux me dire une autre réponse. Atam de nagule obeshon. Là-bas, nous parlons de raisins qui ont touché une impureté au premier degré. Et donc ces raisins eux-mêmes deviennent impurs au second degré. Et le vin qui va sortir de ces raisins va devenir impur au troisième degré. Et donc c'est pour cela que l'on n'a pas le droit de les presser en grosse quantité. Car on craint que le vin va devenir impur au troisième degré. Ah ah, mais ici, des nagubesheni, nous parlons ici que les raisins ont touché une impureté au second degré. Davuleushlishi, et donc eux-mêmes sont impurs que au troisième degré. Et donc il y a une règle qui nous dit que quelque chose qui est impur au troisième degré ne peut faire passer l'impureté. Quand nous parlons de terouma, bien sûr. Car si nous parlons de choses profanes, déjà au second degré, on ne peut faire passer l'impureté. Et à propos des choses saintes, par exemple des sacrifices, même au troisième degré, on peut faire passer l'impureté. Au quatrième, on ne peut pas faire passer l'impureté. Or, comme ici nous parlons de terouma, alors au troisième degré, l'impureté ne passe plus. Et donc, puisque ces raisins ont touché une source d'impureté au second degré, eux-mêmes ne sont qu'impurs qu'au troisième degré. Et donc même si on presse les raisins en grosse quantité, le vin qui va sortir de ces raisins n'est pas impur, car les raisins ne sont impurs qu'au troisième degré et ne peuvent faire passer l'impureté vers le vin. Maintenant, la Gemara revient sur l'enseignement que nous avons vu au nom de Resh Lakish. Nous avons vu donc que d'après Resh Lakish, les choses saintes, les sages ont décrété un certain niveau de sainteté sur les choses saintes, même au-delà de ce que la loi exige. Comme par exemple, nous avons vu que d'après la loi, on peut, par exemple, l'eau de libation, on pourrait les rendre pures, mais ça, ils ont décrété que l'on n'a pas le droit, qu'on ne peut pas les rendre pures. Alors, Rava nous dit, Afanana mitanina. Nous aussi, nous avons enseigné une chose pareille, que les choses saintes, les sages ont décrété un certain niveau de sainteté sur celles-là. Venatan alav maim chaim el keli. Il est dit, à propos de l'eau qu'on utilisait pour la vache rousse, et il y versera de l'eau de source dans un ustensile. Et de là, nous apprenons, Chetehe Chayutan Bekli. Il faut que l'eau vienne directement dans la source, de la source dans l'ustensile. C'est-à-dire, l'eau de source en hébreu s'appelle Maim Chaim, de l'eau vivante. Et de là, nous apprenons Chaim El Keli, qu'elle doit être vivante dans l'ustensile. Donc de là, nous apprenons en fait que de la source, elle doit être versée directement dans l'ustensile. Elle ne doit pas passer par l'intermédiaire d'un autre ustensile. Et d'un autre côté, il y a une question. Le début du verset nous dit « Venatan » et il va verser. Or, si on verse, ça veut dire qu'on verse « Alma tlushininu ». Nous parlons ici que cette eau ait déjà été puisée, car on verse de l'eau d'un ustensile à un autre. On ne verse pas de l'eau de la source dans un ustensile. De la source à un ustensile, on puise de l'eau. Là, il est dit « on verse de l'eau ». Donc, ça veut dire que l'eau a déjà été puisée. Donc, apparemment, il y a une contradiction dans le verset. « Vamechubariminu ». Pourtant, d'après le verset, nous avons besoin que cette eau provienne directement de la source. C'est-à-dire que les sages ont dit que l'on doit prendre de l'eau directement de la source. Mais d'un autre côté, du début du verset, on prouve que l'on peut utiliser de l'eau qui a déjà été puisée. Car il est dit « Venatan » et il va verser. Donc en fait, lorsque les sages nous disent que l'on peut utiliser que de l'eau de la source directement, c'est en fait parce qu'ils ont été au-delà de la loi. C'est-à-dire, d'après la loi, il est permis d'utiliser même de l'eau qui a déjà été épuisée. Et ça, je vous dis, non, on doit prendre de l'eau de la source directement.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.